l'annonce de la trahison de Judas, qui s'empressera ensuite de quitter rapidement le groupe. Après avoir chanté probablement les psaumes du Hallel, c'est-à-dire les psaumes 113 à 118 et le psaume 136, que les Juifs d'ailleurs chantent encore aujourd'hui après le repas pascal, Jésus et ses disciples quittent la chambre haute pour se rendre vers le mont des Oliviers. Et c'est là, en chemin, que Jésus déclare qu'ils vont tous chuter, tous, trébucher, être ébranlés dans leur foi. Et il cite le prophète Zacharie au chapitre 13, verset 7, « Je frapperai le berger et les moutons seront dispersés. » Cette parole forte de Jésus va faire réagir l'apôtre Pierre. Pierre qui estime que si ça peut se passer pour les autres ou si ça se passera pour les autres, ce ne sera pas le cas pour lui. Lui ne chutera pas. Lui restera fidèle. Lui, le Seigneur pourra compter sur lui. Pierre lui dit, quand cela serait pour tous une occasion de chute, cela ne le serait pas pour moi. Je vous propose ce matin, dans notre série sur l'apôtre Pierre, de nous arrêter sur cet épisode du reniement de Pierre. Et je vous invite à lire un premier passage qui se trouve dans... Ça va venir ? Non ? Pour l'instant, ça, voilà, ça vient. Un premier passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, et je lis les versets 26 à 31. Marc 14, 26 à 31. Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Il y aura pour vous tous une cause de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les moutons seront dispersés. Mais après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand cela serait pour tous une cause de chute, cela ne le serait pas pour moi. » Jésus lui répond, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté deux fois, toi, tu m'auras renié par trois fois. » Mais lui n'en protestait que davantage. « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Après cette brève introduction, nous passons à notre deuxième point qui concerne l'annonce du reniement de Pierre. Ce que Jésus dit de ce qui va se passer cette nuit-là nous rappelle, comme nous l'avons souligné dimanche dernier, que Jésus est pleinement maître de son destin. Il sait exactement ce qui va se passer dans les minutes, dans les heures qui vont suivre. Il sait, et rien ne va le surprendre. Il sait, et c'est d'ailleurs pour cette heure-là qu'il est venu. Nous l'avons vu dimanche dernier. Ce qui va se passer est sous le regard de Dieu, dans le plan de Dieu, dans sa souveraineté. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui va frapper le berger. C'est Dieu lui-même qui infligera à Jésus le châtiment qui nous donne la paix, comme le dit le prophète Ésaïe. Si le berger va être frappé, si les moutons vont être dispersés, ce ne sera néanmoins pas la fin de l'histoire. Et Jésus leur annonce au verset 28 qu'après son réveil, c'est-à-dire sa résurrection, il les précédera et les retrouvera en Galilée. Les retrouvailles se feront là où tout a commencé. Se feront vraiment là où tout a commencé. Il y aura quelques petites choses à Jérusalem, mais c'est vraiment en Galilée que Jésus les retrouvera. Et plus tard, dans le tombeau vide, l'ange dira aux femmes venues finir d'embaumer le corps de Jésus, c'est Marc 16, verset 7, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » La citation du prophète Zacharie évoque les souffrances et la mort de Jésus en parlant du berger qui sera frappé. Cette citation de Zacharie évoque aussi, en parlant des moutons qui seront dispersés, la dispersion des disciples au moment de l'arrestation de Jésus. Mais en réalité, le plus important, c'est important bien sûr ce qui est dit dans ces versets, mais le plus important à mon sens, c'est ce qui est dit autour de ce verset 7. Et en particulier au début du chapitre 13 du prophète Zacharie, où nous lisons en ce jour-là, le jour où le berger est frappé et où les moutons sont dispersés, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour la souillure. Oui, en ce jour-là, quand le berger sera frappé, une source sera ouverte. Une source qui n'existait pas auparavant. Une source avec une eau qui ne lavera pas le corps, mais qui lavera l'âme de ses péchés. L'eau est ici, comme ailleurs dans la Bible, une image de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu qui purifie du péché et qui vivifie. Et cette promesse concerne la rémission des péchés et la transformation intérieure qui est attachée à la nouvelle alliance. Nouvelle alliance que Jésus va établir par le sacrifice de sa vie quand le berger sera frappé. Oui, les événements qui vont suivre seront tragiques. Jésus va être arrêté, injustement condamné, puis crucifié. Ses disciples vont être dispersés, mais tout cela n'est pas une fin en soi. Tout cela est pour quelque chose de grand et de merveilleux. C'est afin d'ouvrir le chemin du salut, afin d'offrir un moyen de purification parfait et définitif à celles et ceux qui mettront leur foi en Jésus. Car le sacrifice de Jésus est une source intarissable où coule l'eau de la vie éternelle. Alors qu'ils sont en chemin vers le mont des Oliviers, Jésus affirme donc qu'il y aura pour tous les disciples une cause de chute. Mais cette affirmation n'est pas au goût de Pierre, qui affirme alors haut et fort que si cela est vrai pour les autres, ça ne le sera pas pour lui. Verset 29, Pierre lui dit, quand cela serait pour tous une cause de chute, cela ne le serait pas pour moi. Le moins qu'on puisse dire ici, c'est que Pierre arbore une certaine confiance en lui. Clairement, il se pense supérieur aux autres disciples. Eux failliront peut-être, mais pas lui. Il n'y a aucune humilité dans les propos de Pierre, seulement de la suffisance et de l'arrogance. Et Jésus reprend Pierre. Il lui annonce son reniement, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Trois fois comme pour faire écho à la suffisance de Pierre. Verset 30, Jésus lui répond, « Amen, je te le dis aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté deux fois, toi tu m'auras renié par trois fois. » Oui, cette nuit-là, dans les heures qui vont suivre, avant que le coq n'ait chanté deux fois, seul Marc nous donne ce détail. Pierre aura renié Jésus par trois fois. Alors, cette annonce de Jésus aurait dû déstabiliser Pierre. Elle aurait dû l'amener à réfléchir à ce qu'il venait de dire, l'amener à plus d'humilité. Mais au lieu de cela, Pierre persiste et signe au verset 31. Mais lui n'en protestait que davantage, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Nous notons ici qu'il n'est plus simplement question de renier, d'abandonner Jésus, mais de mourir pour lui. Pierre affirme qu'il ne reniera pas, et même qu'il est prêt à donner sa vie pour Jésus, avec Jésus, s'il le faut. L'affirmation est forte, très forte. La chute n'en sera que plus dure et plus amère. Le texte finit avec un détail que l'arrogance de Pierre arrive presque à éclipser. C'est la toute fin de ce passage, à la fin du verset 31, « Et tous en disaient autant. » On charge beaucoup Pierre, mais tous ont dit la même chose. Est-ce le fait de l'assurance de Pierre? Ça a fait boule de neige? Est-ce l'effet de groupe? Eux aussi aiment le Seigneur, après tout, pas seulement Pierre. Pierre qui parle toujours le premier, Pierre qui tire toujours la couverture à lui. Alors tous disent de même, tous affirment qu'ils ne renieront pas Jésus et qu'ils donneront leur vie avec lui si c'est nécessaire. Tous en disaient autant. Avant de passer au reniement à proprement parler, un mot sur une précision qui n'est donnée que par l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. C'est Jésus qui parle et qui dit « Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Luc parle ici du rôle de Satan, qui correspond dans ce récit à ce que nous voyons dans le récit de Job. Il est celui qui pousse à la chute et qui en fournit les occasions, mais il ne peut pas agir sans la permission de Dieu. Ainsi, après avoir réussi à entraîner Judas, Satan s'attaque maintenant aux autres disciples et il les a réclamés auprès de Dieu pour les passer au crible, pour les écrémer, pour en égarer autant que possible. Mais Jésus veille. Il veille sur les siens. C'est lui qui garde toutes les cartes en main. Ainsi, nous apprenons qu'il a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille pas tout à fait, afin que Pierre ne sombre pas totalement. Quelle grâce! La grâce du salut, certes, mais aussi la grâce de la préservation par l'intercession de Jésus. La grâce aussi de la restauration quand nous chutons. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, « Et toi, quand tu seras revenu, comprenez de ton égarement, affermis tes frères. » Jésus voit déjà plus loin. Pierre va revenir de son égarement parce que Jésus veille sur lui et parce que Jésus le relèvera. Passons maintenant au troisième point, le point sur le reniement lui-même. Et je continue la lecture un petit peu plus loin dans Marc 14 au verset 66 jusqu'au verset 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Nazaréen. » Il le nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire, toi. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se remit à dire à ceux qui étaient là, « C'est l'un d'entre eux. » Lui, à nouveau, le niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là, car tu es aussi galiléen. » Alors il se mit à jurer, sous peine d'anathème, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant qu'un coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié par trois fois. » Alors il se mit à pleurer. Depuis que Jésus a annoncé le reniement de Pierre, plusieurs choses se sont produites. Il y a d'abord eu l'épisode dans le jardin de Gethsémané, où a commencé véritablement la passion de Jésus, où Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils veillent avec lui. Mais ils n'ont pas pu veiller une heure avec le Seigneur. Ils se sont endormis. Et puis il y a eu l'arrestation de Jésus et la tentative folle et désespérée de Pierre qui s'interpose avec son épée, qui tranche l'oreille d'un certain Malchus que Jésus va guérir. Pierre, qui à ce moment-là a certainement voulu prouver à Jésus le sérieux de ce qu'il avait dit quelques heures plus tôt, prouver sa bonne foi, montrer à Jésus qu'il pouvait vraiment compter sur lui. Mais Jésus n'avait pas besoin de l'aide de Pierre. Il avait la puissance pour se défendre seul. Il avait aussi la possibilité de demander à son Père de l'aide. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Pierre, et c'est Matthieu qui nous le rapporte dans son évangile. « Penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père qui me fournirait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Jésus n'a pas besoin d'aide, pas besoin d'être secouru parce qu'il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Comme le dit Jésus au verset 54. De notre texte, de Matthieu. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? C'est pour cette heure que Jésus est venu. Quand Judas a désigné Jésus et qu'il a été arrêté, dans le texte de Marc et dans les autres textes, nous lisons que tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est la débandade. Il n'est plus question pour aucun disciple de mourir avec Jésus, mais de sauver sa peau. Une fois arrêté, Jésus est tout d'abord emmené devant le grand prêtre, devant Anne. Les disciples ont fui, mais Pierre et Jean, le texte ne mentionne pas les autres, suivent Jésus de loin. Et Jean, qui connaît le grand prêtre, dit le texte, et qui connaît son entourage, parvient à faire entrer Pierre avec lui dans la cour du palais du grand prêtre. Il fait froid. Un feu brûle dans la cour et plusieurs personnes sont là autour pour se réchauffer. Pierre s'approche. Une des servantes l'interpelle. « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Nazaréen ?» Pierre le nie, il fait celui qui ne comprend pas. Verset 68, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire, toi. » C'est le premier des trois reniements. Deux autres vont suivre. Et dans le troisième, Pierre va aller jusqu'à faire des imprécations, jusqu'à jurer. Verset 71, il jura. Il se mit à jurer sous peine d'anathème, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Sous peine d'anathème, c'est difficile à comprendre. La version du semeur dit « Je le jure et que je sois maudit. Que je sois maudit si ce n'est pas vrai, si ce que je dis n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme, dit Pierre. Et aussitôt, le coq chanta. Dos au mur et complètement paniqué, Pierre ajoute au mensonge et à la trahison la malédiction. La malédiction qu'il invoque sur lui-même, si ce qu'il dit n'est pas vrai. La chute est vraiment à la hauteur de l'arrogance qu'il a arboré quelques heures plus tôt. Et pour la deuxième fois, le coq a chanté. Et Pierre s'est souvenu alors de la parole que Jésus lui avait dite. et il s'est mis à pleurer. Et c'est ici que l'évangile de Luc ajoute un détail émouvant. C'est Luc chapitre 22, versets 60 à 62. Je lis simplement le verset 61. « Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. » Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Ce regard de Jésus qui croise celui de Pierre après ses trois reniements souligne tout l'amour du Seigneur pour sa brebis égarée. Brebis égarée à laquelle Jésus pense alors qu'il a commencé sa passion. Brebis égarée pour laquelle il prie. Jésus savait exactement ce qui était en train de se passer en bas dans la cour. Il savait que Pierre était en train de s'effondrer, de s'enfoncer. Il allait falloir maintenant qu'il passe par la repentance avant de pouvoir être restauré. Et ce regard de Jésus va aider Pierre à se souvenir et à commencer à pleinement prendre conscience de sa fanfaronnade, de son péché. Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant qu'un coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié par trois fois. Il sortit et dehors il pleura amèrement. Luc précise que les pleurs sont amers. Pierre, par la grâce de Dieu, par le regard de Jésus, est déjà sur le chemin de la repentance. Je propose maintenant de passer à quelques prolongements de tout ce que nous venons de dire. Nous verrons la semaine prochaine la question de la repentance et de la restauration de Pierre. Et le premier point que j'aimerais souligner ce matin dans ces prolongements concerne la sincérité. Il me semble que nous n'avons aucune raison de penser, de douter de la sincérité de Pierre quand il affirme qu'il ne reniera pas son maître. Je crois personnellement que Pierre était sincère. Il était de bonne foi et il était convaincu de ce qu'il affirmait. Mais dans le domaine de la foi, la sincérité est bien évidemment importante, mais elle ne suffit pas. Elle ne peut pas, à elle seule, par exemple, garantir la fidélité. Il faut pour cela l'appui, le soutien de l'Esprit de Dieu. La sincérité ne peut pas, à elle seule, par exemple, être garante de la véracité, de quelque chose, de la vérité. Il faut pour cela le fondement de la parole de Dieu. Et c'est pour cette dernière raison qu'en matière de foi, l'expérience ne peut jamais être normative. Ainsi, la question que nous devons nous poser devant notre propre expérience ou celle des autres, je parle d'expérience spirituelle, ce n'est pas la sincérité, mais c'est celle de la conformité à la parole de Dieu. Et nous devons veiller à ne pas faire de la sincérité le critère ultime, infaillible, au-dessus de tout et surtout au-dessus de la parole de Dieu. Je peux être sincère et dans l'erreur. Je peux être sincèrement dans l'erreur. Deuxième prolongement que j'aimerais faire concerne les bonnes intentions. C'est le prolongement du premier, hein. Les choses se tiennent quand même pas mal. Si la sincérité n'est pas suffisante à elle seule, dans le domaine de la foi, les bonnes résolutions non plus. Les bonnes intentions non plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que la chair, c'est-à-dire notre nature humaine, notre nature pécheresse, est faible. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va dire, ou ce que Jésus a dit quelques heures plus tôt à ses disciples dans le jardin de Gethsémané. Juste avant que ses disciples ne l'abandonnent, juste avant que Pierre ne le renie, Que dit-il ? Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les bonnes intentions ne suffisent pas. La chair est faible, et si nous ne nous appuyons que sur la chair pour vivre notre vie de foi, alors nous sommes sûrs de chuter. Que faire devant ce constat ? Faut-il baisser les bras ? Faut-il se résigner ? La chair est faible, donc, ma foi, on fait comme on peut. Avant de répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord dire un autre mot sur un autre prolongement, c'est-à-dire la suffisance ou se croire fort. C'est le troisième prolongement qui rejoint lui aussi les deux premiers. À l'évidence, Pierre se croyait fort. Il se pensait même au-dessus des autres. Eux, peut-être, tomberont, mais pas lui. Il se croyait à l'abri de tout ce que le Seigneur lui avait dit. Il était tout simplement aveuglé par sa suffisance et la chute était inévitable. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand il écrit aux Corinthiens un avertissement qui aurait pu être écrit pour l'occasion, pour Pierre et pour chacun de nous quand nous nous croyons forts. Vous connaissez ce texte, que celui qui pense être debout ne prenne garde de tomber. Et puis, il y a aussi ce que l'apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, qui colle tout aussi parfaitement à notre situation. C'est 2 Corinthiens 12, verset 10. « C'est quand je suis faible que je suis fort. » C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je me pense fort que je suis faible. Pierre se croyait fort. N'était-il pas un des intimes du Seigneur ? N'avait-il pas vu Jésus transfiguré sur la montagne ? N'était-il pas présent lors de la résurrection de la fille de Jaïrus ? N'était-il pas le premier à affirmer que Jésus est le Christ ? N'a-t-il pas marché sur l'eau ? Pierre se croyait fort, mais il était faible. Il se pensait debout, mais il était déjà en train de chuter. Parce que comme le dit le Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si Pierre avait reconnu sa faiblesse, son besoin de Dieu, rien de cela ne se serait sans doute passé. Dans sa faiblesse, il aurait été fort de la force du Seigneur. Mais Pierre était faible parce qu'il se pensait fort. Pierre était faible parce qu'il pensait pouvoir se passer de Dieu. Il pensait pouvoir y arriver par ses propres forces. Mais si l'esprit est bien disposé, la chair est toujours faible. Dans la chair, nous ne pouvons pas triompher spirituellement. C'est impossible. La chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Combien il nous faut veiller. Veiller à ne pas laisser nos talents quels qu'ils soient, nos dons, nos réussites, nos victoires du passé ou que sais-je, nous monter à la tête. Nous faire croire que finalement nous pouvons y arriver par nous-mêmes. Nous avons maintenant suffisamment de route. Pourquoi encore compter sur le Seigneur ? Nous pouvons nous passer de lui pour gagner le combat contre le péché dans notre vie, pour vaincre nos tentations, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Cette leçon, l'apôtre Pierre va l'apprendre. Et nous en avons la preuve dans ce qu'il écrit dans sa première épître, quand il dit tous, 1 Pierre 5, versets 5 et 6, tous revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au temps voulu. Notons ici qu'il y a dans ce domaine toujours un équilibre à rechercher, un équilibre qui n'est pas évident. C'est l'équilibre à trouver entre la confiance en soi, qui est bonne et nécessaire jusqu'à un certain point, confiance en ses capacités, confiance dans le travail qu'on a fait, etc. Et puis la conscience de sa faiblesse, de ses lacunes, de son besoin de Dieu, de Dieu. Et les deux extrêmes sont mauvais. Trop de confiance en soi et trop peu de confiance en soi. L'un comme l'autre sont mauvais. Ce qu'il faut rechercher, c'est la position médiane, où je suis conscient de mes atouts, conscient de ce que le Seigneur m'a donné, et en même temps conscient de mes fragilités, de ma chair qui est faible, conscient que ma force est dans le Seigneur et dans le Seigneur seul. Je propose de revenir maintenant, et c'est le quatrième prolongement, à cette interrogation que nous avions devant la faiblesse de la chair et la solution que Jésus va donner dans le jardin de Gethsémané. Pourquoi Pierre et les autres disciples ont-ils chuté ? Il y a tout ce dont nous avons déjà parlé, l'arrogance, la suffisance, l'insuffisance des bonnes intentions, etc. Et puis, il y a surtout le manque, l'absence de prière. Comme le souligne l'épisode dans le jardin de Gethsémani, qui traduit une certaine léthargie spirituelle, qui traduit tout simplement un manque de communion avec le Seigneur à ce moment-là. Que dit Jésus avant de dire que la chair est faible et l'esprit bien disposé ? Il dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que faisaient les disciples pendant que Jésus priait ? Ils dormaient. Ils n'ont pas prié. Ils sont pleinement entrés dans la tentation. Bien évidemment, il faut se garder de voir ici la prière comme une sorte de formule magique, d'incantation qu'il suffit de faire pour être protégé de tout mal. C'est pas ça, bien évidemment. La prière est un chemin privilégié qui nous détourne de la tentation, certainement parce qu'elle est un chemin privilégié par lequel nous nous approchons de Dieu. C'est parce que je suis près de Dieu, en communion avec Dieu, que je suis en sûreté face à la tentation. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, c'est là devant le trône de la grâce que nous obtenons compassion et que nous trouvons grâce en vue d'un secours opportun. Pierre et les autres disciples se sont assoupis au moment où ils auraient dû lutter dans la prière avec Jésus. Il n'est pas étonnant qu'ils aient tous abandonné Jésus. Il n'est pas étonnant que Pierre n'ait pas tenu bon et qu'il ait fini par renier Jésus à trois reprises. Oui, la sincérité est importante. Oui, les bonnes intentions aussi. Mais tout cela n'est pas suffisant si je ne compte pas sur le Seigneur. C'est finalement cela la prière, compter sur le Seigneur. Ce n'est pas se reposer sur ses forces seules, mais sur le secours qui se trouve en Dieu. En parole, nous refaisons le monde et nous gagnons tous les combats. Si la victoire spirituelle dépendait de nos bonnes intentions, nous gagnerions toujours. Mais la réalité, c'est que si l'esprit est bien disposé, la chair est toujours faible. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » Quand les soldats viennent arrêter Jésus, Jésus a prié et il est prêt. Il est prêt à faire face aux heures qui sont devant lui. Par contre, Pierre et les autres vont complètement réagir par la chair. N'ayant pas prié, n'ayant pas recherché ce secours du Seigneur, ils luttent avec leurs propres armes, c'est-à-dire avec la chair, avec les armes dérisoires qui sont les siennes, une épée, et puis des excuses bidons, le mensonge et tout ce qu'on a déjà vu. Ni Pierre, ni les autres disciples n'ont compris ce jour-là que le combat qu'il devait mener à ce moment-là était un combat spirituel qui ne pouvait se gagner que dans la communion avec le Seigneur. C'est la leçon importante du Notre Père, une des leçons importantes du Notre Père. Et j'aime bien la traduction du Semeur pour ce verset qui dit « Garde-nous de céder à la tentation et délivre-nous du mal ». L'accent est conjointement mis sur ce que le Seigneur fait et sur ce que nous faisons. Garde-nous de céder à la tentation et délivre-nous du mal. Comment perdons-nous les défis de la tentation dans notre vie ? En grande partie en négligeant la prière, en comptant sur nos forces plus que sur celles du Seigneur, en restant parfois dans une attitude de suffisance. Comment gagnons-nous le défi des tentations dans notre vie ? En nous approchant de Dieu, en lui demandant son aide, en manifestant notre besoin de lui et notre dépendance de lui. Je termine avec un dernier, cinquième prolongement très court, nos affirmations catégoriques. Combien de fois avons-nous chanté ? Prier, dit, on l'a d'ailleurs fait ce matin, « Je te donne tout. » Oui, prends tout, Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Je ne le ferai plus, je ne le dirai plus, je ne le penserai plus, je ne recommencerai plus. Des affirmations qui correspondent au désir profond de notre cœur, mais qui ressemblent souvent à celles de Pierre. Parce que pour nous aussi, la chair est faible, et les bonnes intentions ne suffisent pas. Faut-il pour autant ne plus dire ou ne plus chanter ces choses ? Je ne crois pas que cela soit nécessaire. Si nous les chantons en pensant y parvenir par nous-mêmes, alors nous sommes bien évidemment dans l'erreur et nous ressemblons beaucoup à Pierre dans notre texte. Mais si nous les disons comme un idéal que nous désirons atteindre en comptant sur le Seigneur, si nous les disons conscients de la faiblesse de notre chair et de la force qui est en Dieu, alors nous serons stimulés à dépendre du Seigneur pour y parvenir. Tout en sachant qu'ici-bas, cela ne sera toujours qu'un idéal vers lequel nous ne cesserons de tendre. Ne soyons donc pas trop durs avec ou trop sévères avec les disciples, avec Pierre, parce que nous leur ressemblons beaucoup plus que nous le pensons sans doute. Et comme eux, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie, premièrement, bien évidemment par le salut, mais aussi par la préservation de l'intercession de Jésus, et enfin par sa restauration quand nous chutons. Puisse le Seigneur nous garder chacun dans l'humilité et dans la dépendance à lui, car c'est en lui et en lui seul que nous sommes forts. Amen. Je vous propose de prendre quelques instants de silence.